Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Chacun aspire à un amour durable et vrai qui mène au bonheur et à la joie profonde. Quels sont les repères et les impasses à éviter pour une vie conjugale longue et heureuse ? L'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal, c'est l'ouvrage tout récemment paru chez Arthège de l'invité de Vivante Église, Marc d'Anselme, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes psychologue et thérapeute de couple, merci de votre passage sur Radio Présence entre deux conférences données dans notre région.
Tout à fait.
Le couple est un savant équilibre entre deux individualités et une vie conjugale. Marc d'Anselme, vous décrivez dans votre livre quatre thématiques sur lesquelles est fondée la vie conjugale, l'autonomie, l'altérité, la volonté conjugale et l'accordage. Parlons, si vous voulez bien, de cette première fondation, l'autonomie. De quoi parle-t-on quand on parle d'autonomie exactement ?
L'autonomie, c'est la capacité à s'assumer soi-même. Je prends l'exemple, par exemple, un enfant n'est pas du tout autonome. Il a absolument besoin de ses parents. Quand quelque chose ne va pas, il va se retourner vers ses parents. Être autonome, c'est se retourner vers soi-même quand quelque chose ne va pas pour régler ce qui ne va pas. Voilà. C'est donc la capacité à s'assumer soi-même. C'est évidemment quelque chose qui est indispensable dans la vie conjugale. Autrement, on va se retourner vers son conjoint et on va faire poser tous nos problèmes sur notre conjoint qui n'est pas là pour ça. Notre conjoint est là pour accomplir une œuvre avec nous, il n'est pas du tout là pour porter nos conjoints. Donc cette autonomie, quelque chose qui est totalement indispensable à la vie conjugale, et si cette autonomie n'est pas acquise, ben on voit bien que la vie conjugale va être polluée par un tas d'interactions néfastes qui ne vont pas dans la bonne direction.
Alors là, vous parlez donc de l'autonomie affective, finalement.
Je parle de l'autonomie en général. L'autonomie en général, par exemple, savoir assumer ses défauts. J'ai une propension à la colère, par exemple. Et ben, être autonome, c'est d'arriver à canaliser cette propension à la colère, savoir m'échapper à certains moments pour avoir un exutoire, mais bref, ne pas faire peser en permanence sur les autres. Cela. Donc oui, ça inclut l'autonomie affective, c'est beaucoup plus large que ça. Ça inclut en fait l'ensemble de notre vie. Je me prends en main, je suis responsable de ma propre vie, j'assume. Voilà.
Mais l'autonomie financière peut ne pas être forcément... Un des points d'ancrage de cette autonomie.
Alors absolument. D'ailleurs, c'est très intéressant. Les jeunes que je vois s'imaginent, parce qu'ils sont autonomes financièrement, ils sont devenus autonomes par rapport à leurs parents. Or, en fait, je parle d'autonomie psychologique, pas du tout d'autonomie financière, ni même d'éloignement géographique, qui ne réalise absolument pas ce type d'autonomie. L'autonomie, c'est un remaniement intérieur psychologique par lequel on se prend en main. Effectivement, l'autonomie financière peut l'aider, mais ce n'est qu'une aide, c'est qu'un appoint, ce n'est pas du tout le moteur de l'autonomie psychologique, bien sûr. Mmh.
Comment articuler liberté et autonomie dans un couple ?
Alors ça, c'est une question philosophique qui m'a toujours passionné. Depuis l'adolescence, j'ai toujours été passionné par cette notion de liberté, arriver à comprendre ce que c'est. La réponse la plus intéressante que j'ai trouvée dans ce domaine-là, je l'ai trouvée, c'est Gustave Thibon. Gustave Thibon qui dit... Peut-être pas exactement ça, mais c'est presque du mot à mot de ce qu'il dit. Nous sommes libres dans la mesure où nous dépendons de ce que nous aimons. Nous ne sommes pas libres dans la mesure où nous dépendons de quelque chose que nous n'aimons pas. Et donc c'est intéressant parce qu'il relie l'amour et la dépendance et la liberté. C'est-à-dire qu'on peut très bien être libre dans une relation de dépendance à quelqu'un. Dans la mesure où c'est une relation, effectivement,
choisie.
On aime cette personne, une relation choisie. En revanche, c'est une relation qu'on n'a pas choisie, là nous ne sommes pas libres. Et c'est intéressant parce que je pense que dans notre culture, on prône tellement l'indépendance, et non pas l'autonomie, ce qui n'est pas la même chose, prône tellement l'indépendance que beaucoup de gens ne veulent pas se marier pour ne pas perdre cette indépendance.
Mmh.
Or, c'est une erreur. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre notre liberté. Mais nous sommes des êtres de dépendance, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres de relation. La relation, elle crée nécessairement une dépendance. Et l'amour crée nécessairement une dépendance. Tout l'important, c'est de rester libre dans la dépendance. Pour rester libre dans la dépendance... Il faut être autonome, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir porter un choix libre sur l'objet d'amour que nous avons, sur la personne que nous avons, et nous restons libres par rapport à elle.
Mmh. Et gagner cette liberté, c'est aussi être libre vis-à-vis de sa famille et des fonctions qu'on a pu se voir attribuer dans sa famille.
Alors effectivement, à partir du moment où la grande œuvre, ça va être cet amour conjugal, cette fondation d'une famille, il va falloir se libérer d'un certain nombre de contraintes que nous ont apportées nos familles d'origine. En particulier, c'est très intéressant, nous avons quasiment tous une fonction dans notre famille d'origine qui a été induite par les relations familiales dont nous n'avons absolument pas conscience dans l'enfance. Nous en prenons conscience généralement à l'âge adulte par un regard un peu critique sur cette famille. Donc vous avez des fonctions comme ça très banales. Vous avez la fille aînée, par exemple, qui est une deuxième mère, ou le fils aîné qui est un deuxième père. Vous avez le petit dernier, ben, il a beau avoir 40 ans, il sera toujours le petit dernier, il sera toujours, et on aura toujours tendance à l'aider, et lui a toujours sollicité de l'aide également. C'est-à-dire qu'il faut arriver à sortir de ces fonctions-là. Vous avez celui qui analyse toujours ce qui ne va pas, le cosaque de la famille, quoi, qui, c'est pas avec lequel ça ne va jamais aller, et qui va faire tout ce qu'il faut pour que ça n'aille pas d'ailleurs, tout en se plaignant qu'on lui reproche toujours tout. Voilà, donc nous avons des fonctions comme ça dont il faut savoir se sortir, de façon à pouvoir cristalliser toute notre énergie, toute notre attention sur l'œuvre que nous voulons accomplir dans le mariage. Généralement, on a peur de quitter ces fonctions familiales parce qu'on craint de... Bon, on va dire que la famille va être déséquilibrée, ça a pu marcher, etc. On a l'impression qu'on est plus loyal à notre famille, qu'on sort de l'amour de notre famille. C'est pas du tout ça. Ces fonctions, en fait, sont dues à des dysfonctionnements familiaux. Le fait de se retirer et de les quitter va obliger la famille à remanier son équilibre et généralement le remanier dans un équilibre qui est plus sain. Donc c'était sain pour nous de quitter ces fonctions, mais c'est sain également pour la famille que nous quittons. Et souvent, on craint à l'inverse, justement, que ça va être malsain pour la famille que nous quittons. Donc, c'est important de le faire à deux points de vue.
Oui, c'est important de le faire. Affirmer sa personnalité dans sa vie conjugale, c'est aussi ce que vous appelez faire naître cette respiration conjugale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Marc Danselme, ce terme?
Ah oui, alors ça, c'est une notion qui est très intéressante, que j'ai découvert peu à peu auprès des couples. On sent chez tous les couples un désir de s'unir. Et quand les couples, les personnes sont proches l'une de l'autre, on sent un besoin de reprendre un peu de distance pour réaffirmer sa propre individualité. Et finalement, on s'aperçoit qu'une vie conjugale équilibrée, c'est une succession de rapprochements et d'éloignements. De rapprochements parce qu'effectivement, on aime la personne, on veut finir avec elle. D'éloignements, non pas pour quitter la personne, mais pour réaffirmer sa propre individualité. Et ce qu'on a réaffirmé ensuite, on a besoin de le réunir avec l'autre. Donc, sans arrêt, on va s'approcher, s'éloigner. Et j'assimile ça à une respiration, parce que je trouve que l'image est assez belle. Dans la mesure où dans un couple dysfonctionnel, on s'aperçoit que cette respiration a disparu. Les choses se sont figées sur des postures rigides et cette respiration n'a pas lieu. Et
donc soit trop de fusion ou soit au contraire trop de d'éloignement.
Ouais. Ou même parfois c'est bloqué dans une position qui n'est pas forcément une position d'éloignement. C'est pas une position, il n'y a plus cette souplesse, ça ne bouge plus. Je vous prends un exemple, par exemple, oui. Je me souviens d'un papa qui, voilà, ils avaient eu leur troisième ou leur quatrième enfant, je ne sais plus. Et sa femme n'était pas du tout contente de cette grossesse. Et le père était resté là-dessus. Il était figé là-dessus. Ma femme n'aime pas cette grossesse. Du coup, il a eu du mal à s'entendre avec cet enfant. Et il s'en voulait à lui, il en voulait à sa femme, il en voulait à son enfant, etc. Sur ce rapport par rapport à tout ça, les choses étaient figées, ne bougeaient plus. Et quand il s'est rendu compte qu'en fait, sa femme était ravie de cette grossesse, il a pris ça, je sais pas, 5-6 ans après. Les choses se sont remises en place et là il y a eu de nouveau par rapport à cet enfant des rapprochements et des éloignements, par rapport à sa femme des rapprochements et des éloignements, or qu'avant les choses étaient bloquées. Et tous les couples en difficulté, on voit tous les dysfonctionnements, c'est des situations qui se bloquent comme ça. Cette respiration n'a plus lieu, ce mouvement, cette dynamique du couple n'a plus lieu. Donc je crois que c'est vraiment un ressort essentiel du couple, c'est quelque chose qui est inhérent à une vie conjugale qui est saine.
Il y a aussi vous l'avez un petit peu dit au début de cette émission, chacun doit porter ses propres difficultés. Là, c'est aussi une façon de préserver l'autonomie de chacun et finalement de garder cette liberté.
Alors, chacun doit porter sa propre difficulté. C'est une question de sa propre autonomie. Si je suis autonome, je vais assumer ma propre difficulté. Je n'ai pas à la faire peser sur mon conjoint. Mais il y a plus grave que ça. Si je cherche à porter la difficulté de mon conjoint, les lacunes de mon conjoint, je vais le déresponsabiliser par rapport à ça. Et du coup, lui ne va plus régler son propre problème. Et donc là, on a des situations cliniques, des situations que j'ai rencontrées dans mon cabinet qui sont assez dramatiques, où chacun cherche à corriger l'autre de ce qui ne va pas, ne se corrige pas lui de ce qui ne va pas, et en plus c'est l'échec parce qu'il n'arrive pas à corriger l'autre. On ne peut pas changer son conjoint, il est comme il est. Nous pouvons nous changer nous-mêmes, nous avons une incapacité foncière à changer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est un réflexe qui est très naturel. Nous défendons notre identité. Quand quelqu'un veut changer notre identité, inconsciemment, nous nous arc-boutons, mettons une force d'inertie incroyable et nous ne bougeons pas. C'est-à-dire que porter la difficulté de son conjoint, c'est vouloir le changer, c'est provoquer en lui cette force d'inertie telle qu'il ne va plus bouger et lui-même ne va plus régler son propre problème. Donc c'est à double titre, c'est quelque chose de malsain de vouloir régler les problèmes de l'autre.
Oui, c'est ça. Et puis quand on est marié, on n'est pas le sauveur de l'autre.
On n'est pas le sauveur de l'autre. Il faut accepter que notre conjoint, il ait des lacunes, il ait des difficultés, des choses qui ne marchent pas en lui. Il a aussi de très belles qualités, voilà, il a son propre cocktail. Il faut l'accepter tel qu'il est. Et l'acceptant tel qu'il est, on va lui permettre de régler ses difficultés, on va lui permettre de progresser dans la vie. Mais si on commence à s'arc-bouter dessus, on va l'empêcher de le faire. Mmh. Ça, c'est un point qui est très, très important.
C'est important. Et justement, vous dites qu'il faut accueillir son conjoint pour ce qu'il est et non comme on voudrait qu'il soit. Ça, c'est quand même un sacré défi pour les couples.
C'est un défi pour chacun de nous parce que nous avons tous un conjoint de rêve derrière la tête, hein, qui est en fait un clone de nous-mêmes dans le sexe opposé et qui finalement s'avère extrêmement pauvre par rapport à la réalité de notre conjoint, qui apporte énormément de choses différentes. Simplement, le conjoint, il va nous surprendre par ses différences, par un tas de choses que l'on n'attendait pas. Mais généralement, ce sont de bonnes surprises, il y a tout un tas d'enrichissements derrière. Vous savez, j'ai une grande confiance dans la façon dont les personnes se sont rencontrées. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui, on tombe amoureux de quelqu'un qui va nous compléter. Donc si on n'accepte pas l'autre tel qu'il est, on va empêcher toute cette complémentarité, on va stériliser le couple d'une certaine façon, sur toute cette richesse conjugale liée à la complémentarité.
Et oui, c'est aussi, vous exprimez dans votre livre, cette notion d'entretenir finalement le lien conjugal, l'autonomie, en tout cas l'altérité de chacun, en donnant cette liberté.
Alors, non seulement l'entretenir, mais on s'aperçoit que nos personnalités, ce n'est pas quelque chose de physique, quelque chose qui a une évolution. Alors, dans l'enfance, on voit très bien que l'enfant évolue, mais même à l'âge adulte, nous continuons à évoluer, notre personnalité continue son développement, continue un tas de choses. Et donc cette altérité va permettre le développement de l'autre. Si je le fige dans une posture, je lui interdis de vivre sa propre vie, de développer sa propre personnalité. Et ça, c'est dramatique. Donc cette altérité, ce sens de l'autre, ce respect de l'autre tel qu'il est, va lui permettre justement de corriger ses défauts, de développer ses qualités, bref, de progresser dans la vie comme nous devons tous le faire. Ça va même plus loin, parce que je pense que une des grandes raisons d'être du mariage, c'est justement l'épanouissement personnel de chacun, c'est-à-dire le développement de nos capacités et la résolution de nos défauts. Donc cette altérité, c'est un point clé qui est indispensable, autrement on va empêcher ce mouvement qui est un des fondements du mariage pour moi.
On va parler de l'ambivalence. Elle permet de considérer son conjoint tel qu'il est. Nous en avons un petit peu parlé. Quel bienfait l'ambivalence peut avoir sur le couple?
Alors l'ambivalence, c'est un mot qui est toujours pas très compris. L'ambivalence, c'est une compréhension de notre nature humaine. Nous avons une nature humaine qui est paradoxale. Notre nature humaine, nous sommes non pas un entre-deux entre du bien et des choses qui vont pas, nous sommes un mélange de très bonnes choses et de choses qui vont pas. Nous avons des qualités, nous avons des défauts, nous commettons des actes magnifiques, nous commettons des actes honteux aussi qu'on aimerait que personne ne connaisse. On est un mélange des deux. Et l'ambivalence, c'est avoir ce sens de ce paradoxe humain qui fait que on est tous appelés à la sainteté, mais on est tous des pécheurs, c'est comme un énorme paradoxe. On va tous se pointer là-haut pécheurs, or que Dieu nous veut saints, c'est aussi un énorme paradoxe. Et dans cette vie quotidienne, ce paradoxe va apparaître. Donc c'est accepter notre conjoint dans son humanité telle qu'il est. Partant de là, effectivement, je permets tout ce jeu d'altérité dont on parlait tout à l'heure, je lui permets toute cette évolution à mon conjoint, et surtout j'ai énormément pacifié la vie quotidienne. Je prends un exemple très simple. Un conjoint, ça peut être agaçant au quotidien, ça peut être exaspérant, il a ses petites manies, ses petites choses, etc. Il peut avoir le droit d'avoir ses mauvaises humeurs, ce n'est pas que ça, mais aussi ça, c'est mon conjoint. Si j'accepte qu'il soit comme ça, je n'ai pas dramatisé les moindres petits événements, le moindre petit écart, je voudrais considérer que c'est normal, ça fait partie de la vie, qu'il n'y a pas à dramatiser ces choses-là. C'est-à-dire, j'ai énormément pacifié la vie, je vais énormément
la détendre,
effectivement, parce que je vais avoir cette sagesse d'accepter que l'humain, c'est pas parfait, ce n'est pas non plus tout mauvais. D'ailleurs, derrière ça, il y a deux notions très intéressantes. C'est le conjoint qui est idéalisé, où je n'accepte pas ses défauts, je ne vois que ses qualités. C'est toujours très malsain d'idéaliser un conjoint, parce qu'on le met sur un piédestal qui n'est pas sa bonne place. Tôt ou tard, il va vouloir descendre de cette position et retrouver sa véritable place. Et généralement, il va le faire d'une façon dramatique. Ou vous avez l'inverse, le conjoint qui est complètement dénigré aussi. Ce n'est pas sa place non plus. Il n'y a pas de conjoint qui est tous nous avons des qualités. Votre conjoint, il n'a pas besoin d'être dénigré, il a aussi des qualités. Et donc ces deux positions extrêmes sont un manque d'ambivalence qui évidemment vont polluer toute la relation conjugale, vont la rendre mauvaise. La bonne attitude, c'est d'accepter mon conjoint dans ce qu'il a de beau, et puis dans ses déficiences, parce que c'est humain d'avoir des déficiences. Et ça s'appelle l'ambivalence.
Et puis, quand vous dites que le conjoint nous agace et qu'il faut l'accepter, quand il nous agace, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas.
D'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai une femme qui parfois a des petits mouvements d'humeur, moi j'ai mes propres défauts. Je sais très bien que quand on a un mouvement d'humeur, c'est quelque chose qui l'agace, ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Ça peut se cristalliser sur moi, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un mouvement du... C'est un mouvement de la personnalité, voilà, qui est tout à fait acceptable. Mmh.
Est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer cette ambivalence d'un cas concret qui s'est déroulé dans votre cabinet?
Un cas d'ambivalence, laissez-moi réfléchir un petit peu. Oui, si, effectivement, j'ai un cas, je me souviens maintenant. Une femme qui n'était pas du tout sûre d'elle et qui, du coup, idéalisait son mari parce que le mari lui donnait l'impression d'une grande assurance. Voilà, il parlait bien, il se tenait droit, on a l'impression de quelqu'un de très sûr de lui. Et du coup, elle a totalement idéalisé son mari. Et elle s'est complètement dévalorisée par rapport à lui. Sauf que le mari ne s'est pas du tout retrouvé dans cette place. Et qu'un jour, il a fait la pire des bêtises qu'il a fait, il a commis un adultère. Et dans cet adultère, en plus, quand sa femme l'a découvert, il l'a nié, il s'est enferré dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire plus fort pour se déconsidérer totalement aux yeux de sa femme. C'est-à-dire que cette descente du piédestal sur lequel sa femme l'avait mis, qui était un manque d'ambivalence, il a fallu qu'il casse complètement le processus. Et c'est d'ailleurs très impressionnant, une fois qu'il a tout cassé, c'est lui qui a voulu restaurer le couple. Sa femme ne voulait pas, n'y croyait plus, mais lui dit si, maintenant on va reconstruire notre couple.
Mais du coup, sur une nouvelle base alors?
Sur une nouvelle base. Il n'a pas du tout compris ce qu'il faisait, il n'a pas du tout compris que c'était un manque d'ambivalence, le fait que sa femme l'idéalisait, qu'il avait conduit à ça, mais il savait qu'il tenait à son couple, qu'il voulait construire son couple, mais il ne pouvait pas le continuer tel qu'il l'était. Et donc on voit donc que cet homme qui était idéalisé se trouvait dans une position dans laquelle il ne trouvait pas du tout sa place au sein du couple, et que finalement, inconsciemment, il a mis en œuvre une chute brutale, effectivement, qui a tout cassé pour arriver à essayer de reconstruire quelque chose derrière. Donc c'est mauvais. Vous avez la même chose également avec l'inverse, hein, quelqu'un qui est complètement décrisé dans le couple, qui va essayer de faire des choses héroïques pour essayer de montrer qu'il n'est pas n'importe quoi, on sort de l'humain normal, de l'humanité normale, souhaitée de quelqu'un qui mène ses actions bénéfiquement, normalement. Donc voilà un exemple que j'ai trouvé qui m'a beaucoup marqué, cette femme qui n'était pas sûre d'elle, qui idéalisait son mari, et bien qui finalement était sortie, elle, de la vie conjugale par cette posture-là.
Voilà un exemple tout à fait parlant. Nous avons donc vu ces deux premiers piliers de la vie conjugale, l'autonomie et l'altérité. Je vous propose de marquer une pause musicale. Écoutons « Dis-moi que tu m'aimes » interprété par Zao de Sagazan.
Très bien.
Je ne peux pas croire que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même, dis-le encore, dis-le plus fort. Peut-être qu'au fond, au fond, j'ai tort et que tu m'aimes. Alors dis-le sans t'arrêter, dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre. Dis-le encore, je veux l'entendre d'une autre façon, faut me surprendre pour m'aimer. Mais je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau la voir, chanter la voir, crier sur tous les toits, moi non, je ne te crois toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, dis-le-moi, 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 dis-le-moi. J'en ai vécu des amours malheureux, paroles aussi belles que mensongères. Ces paroles et paroles légendaires. Oh, moi, j'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin. Prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, 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 dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime.
Isabelle Duché.
C'était Zao de Sagazan qui interprétait « Dis-moi que tu m'aimes ». Nous sommes en présence de Marc Dansen, psychologue clinicien et thérapeute de couple. Vous affirmez dans votre ouvrage, Marc Dansen, qu'il existe une volonté conjugale propre. Quelle est-elle ?
Alors, en fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a la volonté de ce que les conjoints veulent faire ensemble, c'est-à-dire ce qui fait partie, j'ai un point à dire, du contrat de mariage. Pourquoi sont-on mariés ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Généralement, on veut fonder une famille, on veut vivre ensemble, etc. Mais il y a aussi une volonté individuelle derrière ça, parce que la vie conjugale va venir nous confronter à nous-mêmes, et donc j'ai un peu envie de dire comme un sportif, s'il veut s'entraîner, il va se confronter à sa paresse, à sa flemme, voilà. Il va être obligé d'être un peu en lutte contre lui-même. Et par conséquent, il y a effectivement un aspect volontaire dans la vie conjugale qui fait qu'on doit se prendre en main pour arriver à aller quelque part. Donc oui, il y a de la volonté conjugale, avec une notion quand même, je ne dis pas du tout que l'amour est quelque chose de volontariste. Au contraire, l'amour est quelque chose de joyeux, avec beaucoup de choses qui spontanément viennent nous entraîner dans l'action amoureuse. Mais il y a aussi cette part de volonté qu'on ne pourrait pas exclure. D'ailleurs, il n'y a aucune œuvre humaine sans volonté. Je crois que ça ne peut pas exister.
Et cette volonté, elle se travaille, elle se construit jour après jour ?
La volonté, elle se travaille jour après jour. Ce qui se travaille surtout, c'est de mettre cette volonté au service du couple, au service de notre progression personnelle et au service de la famille. En fait, c'est un peu la trilogie, la progression personnelle, la progression du couple et la progression des enfants. Et donc elle doit agir dans les trois domaines. Mais c'est intéressant parce que dans les trois domaines, c'est une interaction en fait. Quand on agit dans un domaine, on agit dans les deux autres. Je prends par exemple, vous avez un enfant qui vous énerve, vous faites un effort pour contenir cet énervement en vous, ben vous faites un progrès personnel qui forcément va rejaillir dans le couple, votre conjoint va l'apprécier, et qui bien évidemment va avoir un effet sur l'enfant.
Oui, donc tout est lié finalement.
Tout est lié, ouais. Tout est lié dans ces trois domaines. Et donc cette volonté, elle doit s'exercer dans l'un des trois domaines, mais en fait elle va s'exercer dans les trois dès qu'on le fait dans l'un. Et c'est ça qui est intéressant.
Et c'est ça qui est intéressant. Dans cette volonté conjugale propre, il y a quand même des conditions. La première, c'est de résoudre ses lacunes personnelles.
Alors, je crois que c'est le premier point, en lien avec l'autonomie dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, s'assumer soi-même, c'est-à-dire ne pas faire peser mes lacunes sur les autres, ni sur mes enfants, ni sur mon conjoint, le moins possible. Et donc, cette volonté de résoudre ce qui ne va pas en moi. C'est intéressant parce que la vie conjugale et la vie familiale va nous donner sans arrêt des occasions de corriger les choses. Je prends un exemple très simple, fictif, mais voilà. Vous avez un père qui était en colère, donc qui a commis des injustices envers vous. Vous arrivez à l'âge adulte, vous aussi vous êtes en colère parce que c'est l'injustice qui nous met en colère. Et donc forcément, vous allez reproduire le schéma avec vos propres enfants. Vous aussi, vous êtes autoritaire avec vos enfants parce que c'est ce que vous avez subi. Et on voit très très bien que justement, la vie familiale va permettre de corriger tout ça, va permettre de corriger même cette transmission générationnelle de colère qui peut se passer de génération en génération.
Il n'y a pas de fatalité.
Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Et une bonne vie familiale et conjugale, c'est saisir ces occasions de corriger tout ce que l'on doit corriger. Mais ça, évidemment, c'est un effort parce que nous avons notre flemme naturelle qui fait qu'on se préfère comme ça plutôt que de faire des efforts, bien évidemment. Mais voilà.
Et c'est là aussi un chemin de sainteté.
Et là, c'est parfaitement un chemin de sainteté. On voit très très bien qu'effectivement, on fait une progression. Une progression de sainteté.
La deuxième condition pour faire naître cette volonté conjugale propre, c'est de mettre en œuvre des interactions positives.
Alors ça, c'est une notion qui est très intéressante quand on a compris là, cette notion d'interaction. Nous sommes tous des êtres de réflexe. Et je pense que 90% de nos actions ne sont pas réfléchies, elles sont réflexes. Spécialement dans la vie familiale, nous avons tous des réflexes. Les enfants ont des réflexes par rapport à des parents, ils ont des réflexes entre eux, les parents entre eux ont des réflexes, nous sommes des êtres de réflexes. Je pense cette petite, dans mon livre, cette petite situation imaginaire, mais que tout le monde comprend. Imaginez le père de famille qui rentre vers 19-20 heures le soir, là, et qui voit la maison en foutoir, qui se met à pousser un hurlement. Il est évident qu'il y a même de la mauvaise humeur dans toute la famille. Si au contraire, il arrive rayonnant, passant par-dessus ce petit désordre qui existe habituellement à cette heure-là, il y a même de la paix dans sa famille. Hein. C'est-à-dire que tous, nous réagissons par réflexe. On a quelque chose de très intéressant, ce sont les neurones miroirs dans notre cerveau. Ce sont des neurones qui perçoivent l'état d'esprit de l'autre et qui le recréent en nous, inconsciemment. C'est-à-dire que si nous arrivons dans de bonnes dispositions dans notre famille, ces neurones miroirs vont faire, cette bonne disposition va se généraliser dans la famille. Et donc on va créer une interaction positive. Si à l'inverse, nous arrivons dans de mauvaises dispositions, nous allons créer de mauvaises dispositions chez les autres, et là on va avoir des interactions négatives. Et là, vous avez des boucles interactives qui vont se créer. Si j'arrive avec de bonnes dispositions, je crée chez l'autre une bonne disposition, il va donc me renvoyer quelque chose de positif qui va accélérer encore mes bonnes dispositions. Et à l'inverse, si j'envoie quelque chose de négatif, il va me renvoyer quelque chose de négatif qui va accroître le négatif en moi. Vous avez ainsi des boucles vicieuses et des boucles vertueuses.
Comme un engrenage, finalement.
Comme des engrenages, exactement. Un des grands intérêts de la vie familiale et conjugale, c'est de comprendre ces interactions en boucles vicieuses ou en boucles vertueuses, et bien évidemment, surpris les unes et d'accélérer les autres, bien sûr.
Et les comprendre, c'est aussi prendre conscience de ses réflexes, et en l'occurrence, là, les mauvais réflexes, pour cet exemple que vous donniez de ce père de famille qui rentre et qui va shooter dans le cartable ou se prendre les pieds, donc arriver énervé, c'est finalement, avant même d'ouvrir la porte, se dire, voilà comment je vais trouver la maison et comment il faudrait que j'évite de réagir.
Alors là, vous abordez un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je crois qu'un des points clés de la vie conjugale, c'est l'état d'esprit. Il faut se mettre dans un état d'esprit. Effectivement, avant de rentrer dans la famille, il faut se mettre dans un état d'esprit. Je vais retrouver ma femme, je vais retrouver mes enfants, quel comportement j'ai adapté. Pour éviter que ce soit uniquement des réflexes qui nous mènent. Et pour aujourd'hui, pour reprendre notre liberté par rapport à cette vie, que ce soit quelque chose que nous ayons décidé. Mais ça ne peut se faire que si nous sommes dans un état d'esprit. Et c'est une des grandes parties de mon livre, je cherche à travailler cet état d'esprit des personnes. Comment se mettre dans un état d'esprit qui va être propice? Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée de quelque chose, mais entre l'idée que nous avons et sa réalisation, il y a toute une phase qui s'appelle la création d'un état d'esprit. C'est ce que fait un sportif avant une compétition, il va se mettre dans sa course, il va se mettre dedans, il sera dedans. Ben c'est pareil pour la vie conjugale et familiale, il faut se mettre dedans, il faut créer un état d'esprit qui soit propice. Autrement, on ne fait que des devoirs, on ne fait que des corvées, et c'est pénible. Mais quand on est dans un état d'esprit, on fait les choses justement avec un autre état d'esprit qui est beaucoup plus joyeux, qui facilite énormément les choses.
C'est comme une préparation mentale.
Une préparation mentale, on peut dire ça exactement.
Vous parliez des sportifs. La troisième condition de cette volonté conjugale propre, c'est d'accéder finalement à la complémentarité conjugale.
Alors, la complémentarité conjugale, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille.
Là aussi, ça se construit.
Là aussi, ça se construit. Et je vois deux niveaux de construction de cette complémentarité. Le premier niveau, c'est un niveau d'altérité. Je vais accepter que l'autre soit différent, qu'il apporte quelque chose de différent. Ça va me chambouler, ça va me heurter, mais enfin bon, je l'accepte parce que j'ai de l'altérité et je comprends que ça ne peut fonctionner que comme ça. C'est déjà un premier niveau qui manifeste un certain mérite. Il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus exigeant, c'est ce que l'autre apporte, je vais le cultiver en moi. Et donc je vais m'enrichir de ce qu'il est en train d'apporter. Et à la mesure où il va le signifier, et à la mesure où je l'aurai cultivé en moi, je vais l'accepter beaucoup plus volontiers. Et même je vais rentrer dans son système. Et là, il y a une véritable complémentarité, c'est-à-dire que je suis en train d'incorporer ce que l'autre apporte de différent de moi. Et là, effectivement, ma personnalité s'accroît énormément. Mais ça, c'est une exigence. C'est pas si facile que ça. C'est pour ça que le mariage, ça dure longtemps, ça dure toute une vie, parce qu'il nous faut du temps pour arriver à réaliser ces choses-là.
Ça me fait penser à cette notion d'héritage. Vous savez, quand on dit qu'une personne est en deuil, elle a plusieurs étapes.
Oui.
Et la dernière, c'est cette notion d'héritage. C'est finalement s'approprier tout ce qu'il y a de bien en l'autre. Et donc, c'est un petit peu ça.
Oui, c'est un petit peu ça. Arriver à s'approprier ce que l'autre apporte de différent de moi. C'est compliqué parce que ce que l'autre apporte de différent de moi, ça vient me choquer d'abord. Pourquoi nous avons tous construit notre équilibre? Ça a été une aventure d'arriver à nous équilibrer dans cette vie. Et l'autre, il arrive avec un équilibre différent qui vient bousculer le nôtre. Notre premier réflexe, c'est de nous défendre par rapport à ça. Et il faut arriver à surmonter ce réflexe pour accepter, ben non, il y a une autre façon d'être équilibré, c'est celle de mon conjoint. Et en la cultivant, je vais accroître mon propre équilibre. Contrairement à ce qu'on croit, en premier, que ça va nous bousculer. En fait, non, ça accroît notre équilibre.
C'est une bonne nouvelle, en tout cas.
Oui.
Les rapports entre l'homme et la femme sont marqués par le désir de la complétude et la peur de se remettre en cause, écrivez-vous dans votre livre, Marc Dansen. Oui. La peur de la différence peut conduire un conjoint à masquer sa propre différence. Quelles sont les conséquences pour le couple?
Ben, la première, des premiers points là-dedans, c'est que l'amour, pour se développer, nécessite la connaissance de l'autre. Si l'autre se masque, on peut plus le connaître. D'ailleurs, c'est la plainte de beaucoup de femmes qui me disent, mais je sais pas ce qu'ils pensent. D'ailleurs, quand elles disent, je sais pas ce qu'ils pensent, je sais pas ce qu'ils vivent intérieurement. Parce que leur mari ne se révèle pas assez. Elles ont du mal à le saisir, elles ont du mal à se mettre en relation avec lui. Donc, le premier point, effectivement, c'est d'affirmer ce que l'on est. Et par cette affirmation, on va permettre à l'autre de saisir quelque chose en nous, de nous connaître, donc de nous apprécier, de nous aimer et de se mettre en relation avec nous. Si j'ai peur de mon conjoint et que je masque ma différence, je masque ce que je suis, j'empêche mon conjoint de m'aimer. Moi, peut-être que je vais avoir une relation avec lui, mais je l'empêche de m'aimer. Mais en plus, la relation que je vais avoir avec lui, ça va être une relation qui va être viciée.
Oui, elle sera faussée.
Ben, elle sera faussée, oui. Bien évidemment. Je ne suis pas en vérité de ce que je suis. Je suis dans une espèce de complaisance, une espèce de... Je cherche à lui faire plaisir et non pas être ce que je suis d'abord. Et donc, ça ne va pas aller.
Et là, on n'est pas dans la liberté dont on parlait au début.
On n'est pas tout à fait dans la liberté dont on est tout à l'heure.
Ouais.
On est dans une contrainte que nous exerçons sur nous-mêmes parce que la différence nous fait peur. Donc, la première chose que l'on fait, c'est de masquer notre propre différence. Et ça, c'est malsain. Nous devons affirmer notre différence. Non pas par provocation, mais simplement pour que l'autre puisse la prendre en compte, puisse se combiner à nous tels que nous sommes. Autrement, on sort de la vie conjugale.
Et avec le risque que si l'autre ne révèle pas sa différence, le conjoint essaye de deviner et a de fortes chances de se tromper.
Il essaye de deviner, il se trompe. Dans mon cabinet à peu près, le conjoint va faire ce qu'on appelle les interprétations. Elles sont fausses entre 75 et 80% des cas, les interprétations. Donc il va se tromper. Et comme je masque les choses, je ne vais pas dire ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je veux, etc. Finalement, je vais me mettre dans une position de soumission et mon conjoint dans une position de domination. On n'est plus du tout dans le conjugal, là. On est dans une relation qui est complètement viciée. Hein? Pour avoir une relation équilibrée, il va falloir que les deux se positionnent l'un par rapport à l'autre. Effectivement, correctement.
Et à l'inverse, il y a donc quand la situation, quand le conjoint masque la différence de l'autre... Là, c'est aussi un écueil à éviter.
Alors, c'est l'autre écueil. Face à la différence nous fait peur. Ça, c'est systématique. Face à la peur de l'autre, je peux masquer ma propre différence ou masquer la différence de l'autre. Comment je vais faire pour masquer la différence de l'autre? Je vais prendre le contrôle sur lui. J'ai essayé de lui dicter sa conduite, de le diriger, de lui dicter ses attitudes, etc. Parce que c'est les attitudes qu'il aurait spontanément me font peur. Donc, je vais lui imposer les miennes. Et donc, je prends le contrôle de l'autre. Donc là, on est clairement dans une posture de domination. Là aussi, on n'est pas du tout dans le conjugal. Mais ces questions-là sont très intéressantes. C'est un des grands sujets actuellement dans notre société. C'est un rapport entre l'homme et la femme. Avec ce volant souvent mis en avant, la femme a été assujettie par l'homme. Ce qui est vrai au plan social, et c'est vrai parce que l'homme a peur de la femme. Il essaie d'en prendre le contrôle au plan social. On oublie un autre versant, c'est qu'au niveau familial, c'est souvent l'inverse. C'est la femme qui est plus forte et qui va assujettir l'homme et qui va essayer de le contrôler, de lui dicter sa conduite. Hein. Avec quelque chose de très fort chez la femme, qui est la maternité, et par nécessité, la femme va dicter l'enfant à sa conduite. Et elle peut prendre l'habitude de la famille de dicter à tout le monde sa conduite aussi, y compris à son mari. Et donc on voit qu'effectivement, on a des jeux de contrôle et de masquage qui sont très, très importants au sein du couple, qui est important de sortir petit à petit. Ça se fait pas d'un coup, il faut savoir les dénoncer. Et ensuite accepter que ça prenne du temps pour sortir de là et rétablir une relation équilibrée où chacun est tel qu'il est.
À propos de ces luttes de pouvoir, de ces situations de soumission-domination qui peuvent se produire dans le couple, comment Marc Dansel parvenir à l'harmonie avec son conjoint ?
Alors d'abord, ces luttes de pouvoir, c'est quelque chose d'insidieux. Quand dans mon cabinet, je fais constater un couple qui ils sont en lutte de pouvoir, ils disent bah oui, c'est vrai, mais alors on n'a jamais voulu ça. Comment ça nous est arrivé ? Ils ne comprennent pas comment c'est arrivé. C'est arrivé parce que la grande règle de la grande règle conjugale, c'est l'harmonie. Les deux conjoints doivent se mettre d'accord sur ce qu'ils font. S'ils ne se mettent pas d'accord, forcément, il y en a un qui va prendre le dessus et qui va diriger. Et comme l'autre ne veut pas se laisser faire, on rentre dans des luttes de pouvoir. Et donc ça s'instaure petit à petit, d'une façon très insidieuse, et tellement insidieuse même que les conjoints ne s'en rendent pas compte. Généralement, c'est quand moi je leur fais remarquer, ah bah oui, c'est vrai, mais alors, comment a-t-on fait pour en arriver là ?
Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis
Et c'est comme ça qu'on fonctionne, voilà, on s'enferme là-dedans, et si on n'y prend pas garde, ça s'accélère, c'est un mouvement qui s'accélère. Donc c'est important de prendre conscience de ces luttes de pouvoir, de sortir de là, et de se remettre dans une véritable harmonie. Alors la véritable harmonie, je pense qu'on le verra peut-être tout à l'heure dans l'entretien, ça nécessite d'abord de se comprendre émotionnellement, et ensuite de se comprendre dans les objectifs de chacun. Donc c'est tout ce jeu de la vie émotionnelle, des confrontations, des désaccords, etc. Mais ce sont vraiment deux gros processus qu'il faut arriver à mettre en œuvre au sein du couple. Et ça, c'est pas simple.
Et il y a aussi ce désir de rechercher le bien, finalement, le bien commun au couple.
Tout à fait. Le bien commun en fonction de, j'ai envie de dire, notre contrat de mariage psychologique, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous avons défini, qu'est-ce que nous voulons faire tous les deux. Et généralement, ce qu'on veut faire, c'est vivre à deux d'une façon joyeuse et fonder une famille qui soit également joyeuse. Et donc remettre les priorités là où elles sont, par rapport à cette vie commune, par rapport au bien de la famille. Mmh. Et sortir de ces luttes de pouvoir qui en fait sont des manifestations de notre égoïsme. C'est notre moi qui prend le dessus sur l'amour. Et c'est pour ça que c'est insidieux, parce que spontanément, nous avons tous tendance à ce que le moi reprenne le dessus sur l'amour. Mmh. Donc je crois qu'on est tous confrontés à ce problème-là.
On est tous confrontés à ce problème-là pour continuer sur cette harmonie avec le conjoint. La place de la prière conjugale dans cette harmonie.
Alors ça, c'est très intéressant, la prière conjugale. Alors moi, je ne l'aborde pas sur un aspect spirituel, je l'aborde sur un aspect psychologique. Psychologiquement, la prière conjugale, c'est un moment très fort. C'est un moment où on fait un arrêt, on se repositionne par rapport à un autre être qui est Dieu, tous les deux ensemble, et j'ai envie de dire, c'est le moment où on se met la main dans la main, quoi. On va se remettre en harmonie l'un avec l'autre parce qu'on est devant Dieu. Hein. Et devant Dieu, on va avoir une action commune qui est harmonieuse puisque c'est cette prière que l'on fait. Donc, d'un simple point de vue psychologique, je trouve que la prière conjugale, c'est un outil extraordinaire d'harmonie au sein du couple. Et il faut vraiment la vivre comme ça. La vivre comme un moment, on va s'arrêter un peu tous les deux là maintenant, on va se remettre côte à côte face à quelqu'un, face à un tiers, et ce tiers est Dieu. Et psychologiquement, ça c'est très fort, c'est très, très intéressant.
Et dans cette prière familiale, le fait que le couple soit quelqu'un qui prie pour d'autres personnes, notamment pour d'autres couples, qui soient un intercesseur, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça participe aussi à l'harmonie du couple.
Ça participe aussi. Eh bien, avant, je voudrais revenir sur un point. Il ne faut pas confondre la prière familiale et la prière conjugale.
Oui,
c'est
sûr.
Deux points différents. De mon point de vue, il faut les deux. Il faut une prière conjugale qui soit simplement des époux, et il faut ensuite une prière familiale avec les enfants, parce qu'on apprend aux enfants à prier, et on apprend que la famille entière peut être une prière. Donc je pense que c'est deux choses différentes. Alors maintenant, effectivement, la grande loi de la vie conjugale, c'est pas de se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans une même direction. Ensemble dans une même direction, ce sont les enfants, mais pas que les enfants. Il y a aussi tout un devoir social, il y a tout un tas de choses. Donc effectivement, dans cette prière conjugale, de porter des intentions qui ne soient pas uniquement les intentions personnelles ou les intentions du couple ou de la famille, ça élargit les choses et c'est effectivement, ça nous remet bien dans quelque chose de très conjugal. Voilà. Mmh. Et puis, dernier point, je n'aborde donc cette prière que d'un point de vue psychologique, mais l'évidence, c'est que le point principal, il est quand même religieux. Hein. En tant que psychologue, je ne l'aborde pas, mais je sais très bien, parce que je suis aussi un être religieux, que le point clé, il est d'abord spirituel, d'abord surnaturel, bien évidemment. Mais je crois qu'il fallait quand même le dire.
Merci pour cette précision. Merci Marc Dansel, psychologue clinicien, thérapeute conjugal, d'être venu depuis Paris pour cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal chez Arthej. Un livre qui est extrêmement bien fait avec des situations cliniques que vous avez éprouvées dans votre cabinet. Cette émission Vivante Église est disponible en podcast sur le site www.radioprésence.com, rubrique Foi puis vie de l'Église. Vous pouvez la télécharger, la diffuser à vos réseaux et aussi la réécouter ce soir à 21h. Merci.